Voilà, eh bien nous nous retrouvons cet après-midi avec ceux qui étaient là déjà ce matin et avec ceux qui nous ont rejoints en cette deuxième partie de journée. On va lire dans la parole de Dieu, évidemment, la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 19. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 26 et le verset 19. Non, c'est pas ça, hein. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Livre des Actes. Chapitre 26 et le verset 19. Voilà. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Voilà. Il s'agit là d'une déclaration de l'apôtre Paul qui comparaissait devant le roi Agrippa. Et il rend témoignage à ce grand personnage de sa foi, de sa propre conversion et de la vocation qu'il a reçue du Seigneur Jésus d'annoncer l'Évangile, de prêcher la parole de Dieu à toute créature. Et rendant compte donc de sa mission, il dit voilà, hein, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et cet après-midi, eh bien, je voudrais que nous nous entretenions au sujet de la repentance. La repentance, c'est le message que Jean-Baptiste, déjà, le précurseur de Jésus, le prophète, l'homme de Dieu, annonçait. Il disait à ses auditeurs, produisez du fruit digne de la repentance. Jésus lui-même, dans ses premières prédications, et par la suite dans son ministère, prêchait en disant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire croyez à l'évangile. Les apôtres ont suivi le même processus. L'apôtre Pierre dira à ses auditeurs, dans le livre des Actes, au chapitre 3, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » La repentance est un message universel qui s'adresse à tous les hommes, à toutes les femmes aussi, en quelques générations, en quelque lieu qu'il se trouve. L'apôtre Paul se rendra à Athènes, nous dit la Bible, et là, sur cette vaste esplanade de l'Aréopage, il dira à ses auditeurs, un auditoire certainement fort nombreux, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient, à se repentir. » Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite de temps ni d'espace, hein. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, si nous reprenons à notre compte, si je puis dire, ce message de la repentance, on n'est pas là en train d'innover, d'imaginer, de créer de toute pièce quelque chose qui n'aurait jamais existé. Non, non, nous sommes en cela conformes à l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, la question qui se pose, c'est, mais qu'est-ce que c'est que la repentance, au fait, hein? Qu'est-ce que c'est que la repentance dans le sens authentique, dans le sens biblique du terme? Le mot qui est traduit dans notre Bible par repentance a un sens très précis. En grec, c'est le mot métanoïa, qui signifie changement de mentalité, ou changement d'état d'esprit. Et ce changement de mentalité, d'état d'esprit, qu'est la repentance, doit se produire dans trois domaines, dans trois niveaux. Changement de mentalité vis-à-vis de Dieu, changement de mentalité quant à soi, quant à nous-mêmes, et changement de mentalité quant au péché. Alors, si vous voulez, on va examiner l'un après l'autre ces trois points. Tout d'abord, changement de mentalité par rapport à Dieu. Quand on se repent, on prend conscience que l'on a négligé Dieu. Vous voyez ? Une personne me disait il y a quelque temps, avec vérité, quand je suis venu écouter l'Évangile, je n'avais pas eu une vie de débauche, je n'avais pas trempé dans toutes sortes d'activités illicites. Non, non, j'avais eu une vie de mère de famille, droite, régulière, honnête, épouse fidèle à mon mari, etc. Et pourtant, j'ai pris conscience que j'étais une pécheresse, que j'avais péché contre Dieu. Pourquoi ? Non pas parce que j'avais fait les 400 coups, mais simplement parce que dans ma vie, j'avais négligé Dieu. Vous voyez ? Négligé Dieu. Voilà. Et quand on se reprend, on prend conscience de cette réalité. J'ai négligé Dieu. Je l'ai dédaigné. Je l'ai méprisé peut-être. Je l'ai rejeté. Je n'en ai pas tenu compte. Je me suis volontairement tenu éloigné de lui. Je l'ai tenu à l'écart. Je l'ai tenu à l'écart. Eh bien, par la repentance, ce Dieu que l'on a fui, ce Dieu que l'on a rejeté, ce Dieu que l'on a méprisé, ce Dieu que l'on a négligé, ce Dieu que l'on a oublié, désormais par la repentance, on se tourne de son côté, on revient à lui, on désire sa présence, on le recherche, on apprend à l'aimer, on s'attache à lui, n'est-ce pas ? S'attacher à Dieu. On est tous attachés à quelque chose. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent, ils sont attachés au plaisir, ils sont attachés à un loisir particulier, ils sont attachés, et ce n'est pas illégitime, à leur famille, ils sont attachés à leur vie professionnelle, ce n'est pas illégitime non plus. Mais ce qui est important avant tout, c'est d'être attaché à Dieu. Dans le livre de Job, il est écrit « Attache-toi à Dieu et tu auras la paix, tu goûteras au bonheur ». Amis, chacun d'entre nous, je pense, personne ne fait exception à cette règle. Nous sommes à la recherche du véritable bonheur. Il n'y a personne qui va lever la main en disant « Moi, mon rêve, c'est d'être le plus malheureux possible ». Ça n'existe pas. Nous sommes chacun à notre manière en train de courir après le bonheur. Bien, voilà la solution, voilà la réponse, voilà l'invitation qui nous est adressée. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu connaîtras le bonheur. Ce Dieu que tu as mis de côté, j'ai rien à voir avec lui, j'ai rien à faire avec lui, ça ne m'intéresse pas. Désormais, eh bien, reviens vers lui. Comme cet homme-là dans la Bible, vous savez l'histoire du fils prodigue, une histoire éternelle qui est tellement évocatrice de ce qui représente un peu la vie de chacun d'entre nous. Ce père de famille qui avait deux fils, et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors il ramasse son magot et quelques jours après, claquant la porte de la maison familiale, il s'en va. Et il vit sa vie, comme bon lui semble, loin de son père, fini son père, plus besoin de son père. Et là, eh bien, il dépense tout son avoir dans une vie de patachon, de débauche. Au bout d'un temps, il se retrouve dans la détresse. Ses amis l'ont abandonné. Il est obligé d'accepter le premier travail qui se présente, gardien de pourceaux. Il n'y a pas de son métier, mais enfin, ce n'était pas très glorieux, surtout pour un juif, de garder les cochons. Et puis, il est dans une misère profonde. Il meurt de faim malgré son travail. Que ferais-je ? Que ferais-je pour me sortir de là ? Que ferais-je pour me tirer de cette situation tellement dramatique, je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. Je sais ce que je ferai, je sais ce que je dois faire, je me lèverai. Et je retournerai vers mon père. En lui disant, quoi ? Salut papa ? Non, non. En lui disant, j'ai péché. Je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un domestiqué. Il ne s'est pas seulement contenté de dire, je devrais le faire. Vous voyez, les gens, ils sont comme ça. Je devrais le faire. Il faudra qu'un de ces jours, je le fasse. Il faudra bien que je me résolve à entreprendre la démarche. Non, il n'a pas seulement prévu de le faire, envisagé de le faire. Il l'a fait. Il est retourné. Et là, il fut accueilli par son père qui lui a donné non pas une place de domestique, de serviteur, mais de fils. Une réhabilitation complète, une réintégration dans la famille. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ça la repentance. C'est le retour à Dieu, tout simplement. Le retour à Dieu. Dans de nombreux passages, nous sommes invités à revenir à Dieu. C'est ça la conversion. Le mot conversion, d'ailleurs, signifie demi-tour, volte-face, changement de direction, changement d'orientation. Et jointe à la foi en Jésus-Christ, cette attitude, eh bien, nous permet d'obtenir le pardon des péchés. L'apôtre Pierre disait, je l'ai cité tout à l'heure, je le cite à nouveau, ce verset, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Voilà, on ne peut pas faire l'économie de la repentance. Tout à l'heure, Michel, à juste titre, parlait de la joie. L'évangile, c'est un message de joie. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, c'est vrai. Mais avant de goûter à la joie du salut, à la joie du pardon, il faut avoir goûté, mais oui, aux douleurs de la repentance. Je prends conscience de ma folie, comme le fils prodigue. Je me suis fourvoyé, je me suis éloigné, je me suis écarté. J'ai dédaigné mon Père céleste. Et bien maintenant, avec la tête basse, avec contrition et humiliation, je reviens à lui et il m'accueille. Alléluia, il m'accueille, n'est-ce pas? Il me fait grâce. Et oui, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. J'avais une maman merveilleuse. Parce que lorsque j'étais gamin, je me tâchais beaucoup. Enfin, je me tâchais. C'était les tâches qui me sautaient dessus. Hein. Ce n'était pas ma faute. Mais je ne sais pas comment elle s'arrangeait, ma brave maman. Elle avait toujours une poudre de perlimpinpin par-ci ou par-là pour faire disparaître les tâches. Même les plus indélébiles, je ne sais pas comment elle se tirait d'affaire. Mais ça marchait à tous les coups. Elle a passé le relais à ma femme. Hein. Voilà, vous voyez, effacer. Effacer. Et le péché, c'est ça, c'est une tache indélébile sur notre cœur. L'Écriture dit, quand tu emploierais du nitre, essayez voir de vous frictionner avec, de la potasse, quand tu emploierais le décapant le plus fort que tu puisses trouver sur le marché, ton péché resterait marqué devant moi. Il n'y a rien qui puisse faire disparaître le péché. Il y a des gens qui disent, oui, mais si je compense le mal que j'ai fait par le bien que je vais pratiquer, certainement que ça va couvrir. Non, 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 non. Ça ressort toujours. Ça ressort toujours. Il n'y a qu'un moyen, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Dans la Bible, nous dit qu'il purifie de tout péché. Mais que pour que le pouvoir du sang de Jésus, pour que le pouvoir du sacrifice de Jésus puisse être effectif dans ta vie, mon ami, il faut que tu crois, certes, que Christ est mort pour toi, mais il faut aussi que tu te repentes. Tu ne peux pas faire l'économie de ça. Il te faut revenir vers Dieu. Il te faut tourner vers lui, n'est-ce pas? Changement de mentalité par rapport à Dieu. Tu ne deviens pas un bigot. Tu ne deviens pas un religieux de 4 sous. Tu ne deviens pas quelqu'un qui va faire des signes de croix n'en plus finir ou des génuflexions, non. Mais là, tu y auras cette démarche intérieure, cette attitude de cœur nouvelle qui fera que ce Dieu que tu avais balayé, mis hors de ta vie, eh bien désormais prendra la première place. On l'a chanté tout à l'heure, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Mais c'est ça, Dieu n'attend pas notre 4 sous. Même les 4 sous que vous avez dans votre portefeuille, vous ne le savez pas, peut-être, ils lui appartiennent. Vous savez ça? Dieu dit dans sa parole, l'or et l'argent sont à moi. Voilà, tous les lingots qui sont dans les banques de Suisse, là-bas, de l'autre côté de la frontière, c'est à Dieu, en fait, mes amis, qu'ils appartiennent. Et ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est votre cœur, c'est votre vie, parce qu'avec votre cœur, votre vie, là, tout le reste. N'est-ce pas ? Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Parce que quand on revient à lui, le Seigneur nous accueille. Amen. Je parlais du fils prodigue tout à l'heure. Quand il est revenu là-bas, que son père l'a aperçu au détour du chemin, il n'est pas resté sur le seuil de sa maison, les bras croisés en disant « Attends, attends, viens mon gaillard, on va régler l'affaire. » Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru à sa rencontre. Vous savez ça, en Orient, ça ne se fait pas. Un chef de famille, ce n'est pas honorable qu'il se mette à courir. Parce que pour courir, il faut qu'il relève la djellaba. Il faut qu'on lui voie les genoux. C'est indécent. Mais il a mis le sens des convenances de côté par amour pour son fils. Et il a couru à sa rencontre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Quand on revient à lui, mes amis, Dieu ne nous attend pas sur le seuil de la porte pour nous donner la bastonnade. Il se présente à nous pour nous serrer sur son cœur, car il nous aime. Il nous aime. Changement de mentalité par rapport vis-à-vis de Dieu. Changement de mentalité aussi, c'est la repentance. Quant à soi, dans le livre de Job, on va le lire si vous voulez, parce que je ne suis peut-être pas sûr de pouvoir le citer de mémoire. Il est écrit ceci au chapitre 42, le livre de Job, c'est avant le livre des Psaumes. Et voici ce que Job dira, versets 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Écoutez la suite. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job, on le sait, fut un homme terriblement éprouvé. En une seule journée, il a tout perdu. Tous ses biens et tous ses enfants. Quelque temps plus tard, il a même perdu sa santé. Tout perdu. Sa femme n'y comprenait plus rien. Elle lui a donné ce conseil terrible. Maudit Dieu et meurt. Voilà. Ses propres amis l'accusaient, disant, si ça va si mal, c'est certainement que Dieu te corrige, Dieu te châtie. Il doit y avoir des trucs qui ne sont pas clairs dans ta vie, mon ami. Et il n'en était rien. Job était intègre et droit. Alors, ça a mené, et quelque part, on le comprend, on sympathise avec lui. Beaucoup de questionnements, et même, hélas, et c'est en cela qu'il a eu tort, beaucoup de contestations vis-à-vis de Dieu. Et puis, Dieu semblait silencieux, et ça a duré longtemps, très longtemps, et Dieu ne répondait pas à ses questions, ses interrogations, et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, n'en plus finir. Et il contestait avec Dieu. Et puis, à un moment, Dieu s'est révélé. Dieu est intervenu. Et devant la majesté, la gloire, la splendeur, la sainteté, la sagesse et la souveraineté de Dieu, Job a réalisé sa propre insignifiance, sa propre misère d'homme. Et il dit ce que nous venons de lire, « Je me condamne et je me repens. » Voilà, Seigneur, j'ai eu tort de contester avec toi. Et c'est ce qui se passe, vous voyez, quand Dieu se révèle, quand Dieu se fait connaître. L'homme, tout à coup, eh bien, est confondu. Ses illusions sur lui-même tombent. Ses prétentions sont balayées et il se découvre l'être humain tel qu'il est vraiment et il confesse sa misère au Seigneur. Seigneur, je ne suis rien d'autre qu'un pécheur, passible de ta condamnation. Oui, j'ai enfreint ta loi divine. Oui, j'ai désobéi à tes commandements. Je ne suis rien d'autre, rien d'autre qu'un misérable pécheur. Et je m'en humilie devant toi. C'est ça la repentance. Tant qu'on dresse la tête, tant qu'on ne s'estime pas si mauvais que ça, vous savez, tant qu'on dit « Oh, j'ai rien à me reprocher. Monsieur, moi, je n'ai ni tué ni volé. » Alors je ne vois pas pourquoi. Eh bien, mes amis, on n'a rien compris. Quand le doigt de Dieu se pointe vers nous, quand le Saint-Esprit nous touche, quand Dieu se révèle, quand il prend l'initiative de se faire connaître à nous, alors nous sommes confondus devant notre propre misère. Et le moindre de nos péchés nous apparaît même dans toute son horreur. Changement de mentalité quant à soi. Dieu ne vous demande pas de vous mépriser, il vous demande de vous humilier, de vous abaisser, de vous sentir tout petit et coupable devant lui, pour qu'en retour, il puisse vous faire grâce. On voit ça dans la parole. Chaque fois que Dieu s'est révélé, l'homme a senti sa misère. Tenez, le prophète Ésaïe, recevant sa vocation prophétique, a eu une vision. Ça existe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et là, autour du trône divin, les séraphins, créatures angéliques, se répondaient l'une à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et quand Ésaïe a été témoin de ce spectacle, il n'est pas donné au commun des mortels de pouvoir apercevoir. Il s'est écroulé en disant, « Malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi ? J'ai tué ? Non, 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 non. J'ai volé ? J'ai été un débauché, un voyou, un cancer. Non, non. Parce que mes lèvres sont impures. Simplement, toutes les fois que je me suis fourvoyé au niveau de mon langage, qui ne l'a pas fait ? Mes lèvres sont impures. Je mérite condamnation. Devant la sainteté de Dieu, je réalise ma propre déchéance et misère intérieure. Dieu lui a fait grâce, tout comme il est prêt à nous faire grâce. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de vous, voyez, que vous baissiez pavillon, que vous vous humiliez. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce à ceux qui savent s'abaisser, s'humilier devant lui. Changement de mentalité quant à soi. Et puis, la repentance aussi, c'est un changement de mentalité quant au péché lui-même. Ces péchés par lesquels on s'est laissé séduire, auxquels on s'est livré, pensant y trouver satisfaction. Voici que, quand on se repent, eh bien, on prend conscience de ce qu'est le péché, et on le prend en dégoût, et on regrette profondément de l'avoir commis. Tenez, le roi David, c'est affreux ce qu'il a fait, cet homme, vous voyez. Un soir qu'il souffrait d'insomnie, il s'est promené sur le toit en terrasse de son palais royal et il a vu de là une femme qui était, ma foi, fort belle et qui se baignait. Et ses sens ont été stimulés. Et au lieu de détourner le regard, comme il aurait dû, il a attardé son regard. La convoitise s'est emparée de lui. Il a fait venir cette femme qui était mariée. Et David le savait. Il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Comment se sortir de cette affaire, de ce scandale ? On va envoyer le mari se faire tuer à la guerre et le problème sera résolu. Et ni vu ni connu, vous voyez ? Il a réglé l'affaire, David, mais Dieu avait vu. Et l'Écriture dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et quelque temps plus tard, le prophète Nathan est venu lui parler de son péché. Alors il a raconté une petite histoire, une fable, pas de La Fontaine, mais de Nathan. Il y avait dans ton royaume un homme riche et un homme pauvre. Le riche avait quantité de brebis et le pauvre n'en avait qu'une seule. Un jour, un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Le riche n'a pas voulu prendre une des brebis de son troupeau. Il a préféré prendre l'unique et seule brebis du pauvre. Il en a fait un méchoui, puis il l'a offert à son visiteur. Et quand David, le roi, parce que la fonction du roi, c'était aussi d'être le juge suprême de la nation, a entendu ça, son sang n'a fait qu'un tour. Oh, quelle injustice ! Cet homme mérite la mort ! Et Nathan a dû pointer son doigt sous le nez du roi, tout roi qu'il était, en lui disant, mais tu es cet homme-là. Et il a dévoilé l'affaire. Dites, un petit prophète, un grand roi. Le roi aurait pu claquer des mains. Les gardes seraient arrivés, le prophète se serait retrouvé en prison ou aurait eu même la tête coupée. Mais David, heureusement, a craqué changement de mentalité quant au péché. J'ai péché contre l'Éternel. Et là, dans le même mouvement de cœur, rédigé ce magnifique psaume 51, où on voit David qui, je dirais, qui s'aplatit, qui exprime son regret profond quant à ce qu'il a commis. Seigneur, c'est tellement affreux ce que j'ai fait. J'ai péché contre toi seul. Oh, délivre-moi du sang versé. C'est pas possible ce que j'ai fait, mais hélas, je l'ai bien fait. C'est vrai, allez, parlons clair, il a goûté au plaisir avec cette femme. Quelques instants, quelques minutes, mais ensuite, le remords, le tourment intérieur, n'est-ce pas? Et il ne fut débarrassé de son fardeau de mauvaise conscience que lorsqu'il a confessé sa faute. Vous voyez? Voilà. Il ne s'agit pas seulement de confesser la faute, encore faut-il l'abandonner. La repentance consiste à se séparer du péché, à s'en détourner, à le rejeter, à l'abandonner, à y renoncer. Je lisais il y a quelque temps un texte d'un prédicateur qui disait, il y a des gens, tous les dimanches, ils se repentent de leur péché. Ça les soulage. Pendant quelques minutes, le fait de dire pardon, 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 ça procure un certain apaisement à leur âme troublée. Il dit, ces gens-là ne sont pas décidés à mettre un terme à la pratique du péché. De telle sorte que ce n'est pas de bonne foi qu'ils se repentent, c'est une mascarade. Cet après-midi, ce soir, ne jouez pas la comédie. Demandez pardon, mais décidez là, en votre fort intérieur, de renoncer au péché dans lequel vous vous êtes complu jusqu'à présent. Il faut qu'il y ait une rupture. C'est ce que Jean-Baptiste, dont j'ai fait mention tout à l'heure, disait à ses auditeurs. Produisez du fruit digne de la repentance. Ne vous faites pas d'illusions. Ça ne suffit pas de faire une belle prière de confession. Ça ne suffit pas de se lever à sa place en réponse à l'appel que lance le prédicateur. Il faut ensuite, après ça, passer aux actes. Il faut qu'il y ait un abandon de ce que nous avons su être contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est que dans cette condition que le pardon peut nous être accordé. Une rupture totale avec le mal que nous avons commis. Le fuir, le rejeter, le prendre en dégoût, notre péché, le haïr même. Voilà ce que c'est que la repentance. Changement de mentalité vis-à-vis de Dieu. Ce Dieu que j'ai rejeté, je me tourne de son côté et je m'attache à lui. Changement de mentalité également quant à soi. J'avais peut-être une bonne opinion de mon petit personnage et tout à coup je découvre que je ne suis rien d'autre qu'un misérable pécheur. Et je le confesse à mon Dieu. Et changement de mentalité quant au péché. Ce péché que j'ai pratiqué peut-être avec délectation, pensant y trouver satisfaction. Maintenant, je le rejette, je le fuis, je l'abandonne, je le renie. Je l'abandonne. Je change de comportement. Je m'engage dans une voie nouvelle. Ça, c'est la repentance. Et qu'en repentance authentique, il y a, jointe à la foi en Jésus, les deux sont inséparables, la repentance et la foi et la repentance, ça marche ensemble. Alors, la grâce de Dieu est manifestée. Amen. Alors, tu peux goûter à la joie du pardon. Parce que quand on est pardonné, on est mieux, non? Oui ou non? On est dégagé du fardeau. Notre cœur est plus léger. On se sent rassuré, apaisé. Tranquille, en communion, en relation avec Dieu. Mon Dieu, que c'est bon la présence de Dieu. C'est pas vrai? Un chant nous dit que j'aime la présence de Dieu. Eh bien, pour la connaître, cette présence divine en vous, il faut en passer par là. Cet après-midi, c'est un appel que Dieu vous adresse. Voulez-vous vous repentir? Tout à l'heure, nous avions une discussion avec quelques-uns et quelqu'un parlait de libre arbitre. On n'est pas des marionnettes. On n'est pas des pantins. On n'est pas manipulé ni par Dieu, ni par qui que ce soit. On a quand même notre mot à dire, si je puis dire. On a notre propre réflexion et notre propre décision à assumer. Et il faut que cet après-midi, vous décidiez, si ça n'est pas fait jusqu'à présent, vous décidiez à vous repentir. Vous devez le faire pour que votre âme soit sauvée et que vous bénéficiez dès ici-bas de la miséricorde de Dieu, de sa présence dans votre vie, que vous ne périssiez pas éternellement en enfer, mais que vous rejoigniez un jour le ciel où il vous aura préparé une place. Que son nom soit béni. Amen. Vous l'avez compris quelques instants? Recueillons-nous. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que